Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on part à la rencontre d'une jeune femme. Une femme, maman. Maman qui a aussi choisi de se concentrer sur son intégrité, sur sa personne et sur son chemin de vie. Quelles sont ses batailles? On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Feilal, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je crois que là, Rita, tout va bien?
Bonjour Yasmine, ben, merci à toi. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, avec vous.
Alors Rita,
alhamdoulilah, tout va bien, merci beaucoup.
Alhamdoulilah. Alors Rita, justement, avec toi, on va parler de ce qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Beaucoup de ce côté privé que tu as vécu il y a quelques années, et aujourd'hui, tu en fais ta force. Et tes filles, c'est vraiment ta petite communauté à toi. Toi, tu es maman de trois jeunes filles, trois petites filles.
Exactement. Kenza, Yakout et Ralia.
Alors, c'est vrai, à la maison, c'est vraiment une communauté de filles.
Oui. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu... Des fois, voilà, on se retrouve dans un environnement assez particulier. Et c'est un petit peu l'histoire qui se poursuit parce que je suis également issue d'une... Je vais dire fratrie, parce que le terme féminin n'existe pas, malheureusement. Bon, il y a sororité, mais ça n'a pas tout à fait le même sens.
Ouais.
Et ben, je suis issue d'une fratrie de cinq filles. Donc, on est cinq sœurs et mon papa également a cinq sœurs de son côté. Donc, je pense que le côté féminin est assez présent et j'ai perpétué finalement l'histoire.
Mm. Alors peut-être la différence entre toi et tes filles, c'est que à la maison, vous êtes fille-fille.
Exactement. Je suis seule avec mes trois filles.
Seule avec tes trois filles. Depuis très longtemps?
Depuis un peu plus de 4 ans maintenant.
Et c'est compliqué d'élever seule trois filles?
Ben, on va dire que c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, surtout que, voilà, on le sait, hein, on passe de la petite enfance vers une enfance un peu plus mature, vers la préadolescence, vers l'adolescence. J'en suis là aujourd'hui avec mon aîné, et voilà, et c'est un long parcours, et le challenge, en fait, c'est qu'il faut vraiment rester à l'écoute et alerte. Donc, tout le long de ce parcours-là, qui tout de même reste magnifique, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais ça apporte tellement et ça nourrit tellement, justement. Et tu le disais bien, en parlant de force, et je pense que véritablement, c'est quelque chose d'incroyablement nourricier en termes de force.
Alors, est-ce que parfois tu as l'impression d'être avec tes petites sœurs ou tu es la mère avec ses filles? Parce que tu restes jeune aussi, en fait.
Oui. Oui. Ben, en fait, c'est l'un des avantages aussi d'avoir ces enfants relativement jeunes. C'est vrai que par moment, le challenge est de trouver justement la juste balance, the healthy balance entre le côté proche, amis. C'est vrai que dans une famille monoparentale, on a tendance à mieux développer ça. Il y a une certaine proximité qui, naturellement, au fil des années, se développe. Mais il faut faire attention à ne pas tomber, justement, dans un côté un petit peu trop amical au détriment du rôle de parent. On continue de remplir. Et Dieu sait à quel point ça peut être difficile parce que il n'y a pas d'école de parents. On devient parent du jour au lendemain sans forcément être préparé à ça. Et c'est une tâche et pas des moindres.
Surtout qu'en fait, ces trois enfants, tabarakallah, chacune son identité, sa spécificité. Et donc, chacune requiert des compétences de parentalité particulières. Et en même temps, tu es seule face à ça. Et ce qui peut être compliqué, c'est peut-être pas ton cas, mais tu me diras, Rita, c'est quand justement tu dis qu'il faut trouver ce juste équilibre entre être proche, sans être forcément ami avec ses enfants, être proche, mais en même temps être le parent. Donc avoir ce rôle, cette autorité parentale, cette figure parentale, c'est peut-être compliqué lorsque l'autre parent n'est pas là, n'est pas toujours là, et lorsqu'il est là, ben, il a envie de faire plaisir, de faire, voilà, de jouer plutôt ce rôle-là, de compenser l'absence.
Oui, oui. Oui, complètement, complètement, Yasmine, c'est absolument ça. Et d'autant plus que, bon, mes filles, forcément, ont des âges différents. Et donc, il faut savoir rester à l'écoute et de façon à pouvoir offrir à l'instant T ce dont l'enfant a besoin. Et pouvoir avoir justement cette capacité-là d'adaptation en fonction du besoin de l'enfant qui diffère d'un âge à un autre. Donc, il y a des fois où, donc, dépendamment de l'âge, ben, il faudra faire preuve de plus de fermeté parce que c'est peut-être l'âge où la personnalité s'affirme, où peut-être on a envie de se rebeller, de mettre, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que dit le parent, la maman en l'occurrence, et un autre âge où justement c'est plus ce besoin d'affection, de complicité, etc., que l'enfant réclame.
Absolument, absolument. Alors dernièrement, je recevais, c'était juste avant le 8 mars, je recevais Zineb Simlali, qui est maman d'un petit jeune homme qui a pratiquement 13 ans, qui a divorcé en fait quelques mois après son accouchement. Et donc depuis, pratiquement, le petit n'a pas vu son papa et la relation est compliquée dans le sens où, pour n'importe quel papier, elle doit faire valoir ses droits auprès d'un tribunal. On va dire que la communication entre eux n'est pas fluide. Et donc, elle milite aussi pour que ce droit de la garde soit absolue dans le sens où une maman qui a la garde de ses enfants ne soit pas obligée d'aller demander l'autorisation, de faire voyager, de demander un visa, de changer d'école, etc. Est-ce que ça, toi, tu le vis ? Parce que elle me disait que dans son entourage, elle connaissait d'autres mamans divorcées, mais elle était la seule à vraiment subir cette pression. Les autres ont trouvé des compromis, on va dire.
J'entends. Après, moi, j'ai envie de dire que chaque situation est vraiment unique, dans le sens où, finalement, dans le cas d'un divorce ou voilà de famille monoparentale, déjà, d'être humain à être humain, on est tous différents. Donc, quid d'une situation où plusieurs individus sont impliqués. Donc, c'est ce qui fait, en fait, le caractère vraiment unique de chaque situation. Pour ma part, j'ai très vite et très tôt fait le distinguo que j'ai exprimé donc au papa de mes filles entre les sujets qui ont trait directement aux enfants et à mes filles en l'occurrence et les sujets qui sont en rapport avec l'ancien couple. Et je pense qu'en séparant les deux sujets, on a réussi à trouver une certaine entente. Je pense aussi qu'il faut garder en tête, il faut être clairvoyant par rapport à certains éléments. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir le contrôle et d'autres choses qui malheureusement, il faut choisir ses batailles. Il faut choisir ses batailles.
Parce avec ses enfants
Dans toute situation, non, pas avec ses enfants, mais dans une situation de divorce, par exemple. Donc, pour répondre à ta question, moi, je ne suis pas confrontée à ça, parce que d'abord, j'ai fait le choix. Oui, la garde revient à la maman, mais on sait tous à quel point la présence du papa dans la vie des enfants, et en l'occurrence de petite fille, est importante. Et quand je dis choisir ses batailles, moi, je n'ai pas eu envie de rentrer dans cette bataille-là parce que mon parti pris de départ est que malgré ce que prévoit la loi, on sait tous que la garde revient à la mère, j'ai estimé, et justement en étant à l'écoute de mes filles, que la présence du papa était du long négociable.
Donc, mais il a fallu aussi qu'il adhère parce que dans le cas de Zineb, c'est le papa qui ne veut pas.
Ah voilà, oui, bah ça forcément, ça revient à ce que oui. Bah alors là j'entends, si le papa ne veut pas, après il est logique que elle puisse avoir une certaine flexibilité et la latitude de pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Mais quand le papa justement fait preuve de compréhension, qu'il est conscient également de l'importance du rôle du père qu'il a à jouer, même si, c'est-à-dire que lorsqu'on divorce, le couple prend fin. Mais le rôle de parent, à aucun moment, il ne prend fin.
Enfin, absolument.
Je suis et resterai maman jusqu'à la fin de mes jours, et il est et restera papa, le papa de mes enfants jusqu'à la fin des siens. Donc, à partir de là, je pense qu'il est important que chacun continue à remplir son rôle séparément et qu'il y ait une certaine collaboration, encore une fois pour le bien des enfants, par rapport à cet aspect-là. Et de mon côté, alhamdoulilah, ça se passe bien sur ce côté-là. Donc, franchement, on collabore, que ce soit lui ou moi, dès lors qu'il s'agisse d'autorisation pour aller vivre,
Voyager, ouais.
Voilà, exactement, pas aller vivre à l'étranger, ça c'est plus compliqué, non, mais plutôt pour voyager, pour les vacances, etc.
Ouais. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre avec son ex une fois qu'on divorce?
Je ferai un pas en arrière avant de répondre à la question, et j'ai envie de te dire, encore faut-il définir ce qu'est s'entendre. Si je devais répondre par rapport à ma situation, on s'entend encore une fois plus ou moins sur le sujet des enfants. Après, bien sûr, on apprend au fil du temps à revoir ses attentes également par rapport au père. Mais ces attentes-là, à partir du moment où le père n'est plus notre mari, je pense qu'il faut être clair également par rapport au fait où la relation père-enfant ou la relation mère-enfant devient une relation bilatérale et non pas tripartite comme c'était le cas initialement dans le cas d'un couple marié. Je m'explique. Bien sûr, même dans le cas d'un couple marié, le papa peut avoir une relation et doit avoir une relation bilatérale avec ses enfants, mais rien n'empêche la maman de venir apporter son opinion, discuter de ça avec le papa, etc. Chose qui, lorsque le divorce se passe, on va dire lorsque
Le couple, le divorce.
le couple prend ses distances, donc la femme par rapport à l'homme, on n'est plus positionné pour donner son avis, dans le sens où, c'est-à-dire qu'on doit respecter les limites. La relation père-enfant reste liée au père et la relation mère-enfant reste liée à la mère. Après, s'il n'y a pas de communication au-delà du sujet des enfants, je pense qu'il faut avoir l'intelligence de pouvoir respecter ça et se dire qu'il y aura forcément des situations où on ne sera pas d'accord. Mais voilà, ça se passe chez eux. De la même manière où j'imagine qu'il y a certaines choses avec lesquelles le papa de mes enfants est probablement pas d'accord, mais qui m'incombe à moi aujourd'hui, de par mon statut de maman divorcée. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire ce distinguo et avoir les idées claires par rapport à ça. Et encore une fois, choisir ses batailles, parce que on mène une vie déjà très challenging, on va dire. Et je pense qu'il faut vraiment savoir apprendre à mettre son énergie où ça en vaut la peine.
Alors, qu'est-ce que cette expérience-là, ce divorce avec trois filles, t'a appris sur toi?
Alors, beaucoup de choses. La première, j'ai envie de dire, c'est que tout le monde peut y arriver. Aujourd'hui, on vit dans une société où le divorce, je pense, hein, je n'ai pas de chiffres à l'appui, mais à travers les discussions, etc., et les cas autour de moi, je pense qu'il y a encore une crainte et une peur par rapport à l'après-divorce. Personnellement, ce que ça m'a appris, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que la personne ne s'en sorte pas. Justement, je pense que la clé pour réussir, c'est qu'il faut faire un travail pour se débarrasser de tout ce qui est ressenti. et de le voir comme un nouveau départ et pour pouvoir justement continuer d'avancer et saisir et ne pas être aveuglé justement par la douleur liée au divorce ou par la frustration ou la colère ou quelle que soit l'émotion qu'on ressent, pour justement garder cette lucidité-là qui nous permet de saisir les opportunités qui continuent de s'offrir à nous à travers cette vision de nouveau départ. Forcément, les premiers jours sont très douloureux. Mais pourquoi ils sont très douloureux? Parce que, justement, le divorce est souvent synonyme de destruction de par la symbolique qu'il traduit. Parce qu'on passe quand même d'une situation où on est une famille abritée sous le même toit à une situation où on est une famille démembrée, où chacun vit de son côté. Donc, c'est ce côté-là de démembrement qui fait que il y a une symbolique de destruction qui, quelle qu'elle soit, est de toutes les façons douloureuse. Ah. Vous savez, on est passé par plusieurs périodes et je pense que le mot-clé est la résilience. Ce que ça m'a appris sur moi aussi, c'est que la résilience n'a pas de limite. Quelle que soit la situation, quelle que soit la dureté de la situation, si on est convaincu qu'il faut continuer de l'avant, qu'il ne faut pas flancher, et justement parce que j'ai quand même une responsabilité qui est celle de faire grandir mes trois petits trésors, donc je n'avais pas le droit de flancher et j'étais obligée de continuer d'avancer avec les moyens que j'avais à l'époque, que ce soit juste après le divorce ou bien après, et je pense que ça sera toujours le cas.
Quand tu parles de moyens, ça veut dire quoi, Rita?
Ben, les moyens, toutes les ressources, qu'elles soient émotionnelles, intellectuelles, financières, qui, on ne va pas se le cacher, restent quand même importantes. Voilà, et donc il faut être clair par rapport à ce qu'on a et jusqu'où on peut aller avec ce qu'on a et être également conscient de ses limites pour ne pas aller s'aventurer dans des situations qu'on ne pourra plus gérer par la suite. Alors, et avancer doucement et sûrement.
Et sûrement. Voilà. Donc, 4 ans après, justement, ce que tu en retiens, toi, c'est une grande résilience, une grande capacité d'adaptation. Tout le monde peut y arriver, comme tu dis. Mais en même temps, alors d'autres... Justement, et surtout dans notre culture, disent quand même, pourraient dire quand même trois petites filles, le fameux Alesh Masbarach. Est-ce que tu y as déjà pensé?
Alors, oui, je ne vais pas te cacher que j'y ai déjà pensé, mais je pense que inconsciemment, j'y ai pensé parce que j'ai grandi dans ce modèle-là où justement la femme Katsbar. Et où le divorce donc du temps de mes parents, de ma mère la Rahma, n'était pas quelque chose qu'on pourrait envisager malgré les difficultés à travers lesquelles le couple peut passer. Mais au fur et à mesure, alors il y a eu beaucoup de travail sur moi, et au fur et à mesure que j'avançais, et finalement, justement, on remet tout. On recentre tout vers l'enfant ou les enfants, donc dans notre cas, et on se dit il a sbar pour les enfants. Or c'est un faux calcul parce que vous savez, on leur rend pas forcément service. Les enfants sont des éponges et il faut pas sous-estimer leur intelligence. C'est-à-dire que quand bien même le couple fera l'effort de ne pas se disputer devant les enfants, de ne pas, mais ils comprennent tout. Et au fil de mon cheminement, je me suis rendu compte que finalement, une maman heureuse et épanouie fera des enfants heureux et épanouis, et que de toutes les façons, les enfants n'ont besoin que d'amour et d'affection, en tout cas au début de leur enfance, qu'ils soient donnés conjointement par le papa et la maman sous le même toit, fine, si on arrive, ou qu'ils soient donnés de façon séparée par le papa d'un côté et par la maman d'un autre, n'est pas une option à écarter non plus.
Alors justement, quand on a grandi dans ce modèle, est-ce que l'entourage n'essaie pas de nous garder dans ce modèle quand on prend sa décision?
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur des parents très compréhensifs et assez ouverts d'esprit, dans le sens où ils n'ont jamais voulu ou même pensé vouloir imposer, si je peux m'exprimer ainsi, le modèle que eux avaient choisi pour leur vie. Et très vite, très tôt dans mon quand justement j'ai entamé ce processus-là, on peut l'appeler processus, je leur ai parlé franchement, je leur ai dit écoutez, je sais que quoi que vous fassiez et quels que soient les conseils que vous allez me donner, ils seront motivés par l'amour que vous me portez, je le sais, vous n'avez pas besoin de le dire, mais également, compte tenu de l'amour que je vous porte et de l'amour que je porte pour mes enfants, et compte tenu du fait qu'il y a des enfants au milieu de l'histoire, je vous demanderai juste de rester un petit peu loin pour que je puisse justement garder la lucidité qui va me permettre de prendre les bonnes décisions sans pour autant impacter les enfants. Et ils ont respecté. Et je leur avais dit également, le jour où j'aurai véritablement besoin de vous, que vous step in, pardon de l'anglicisme, c'est moi qui vous le demanderai. Et voilà, et j'ai juste demandé de respecter ça, et ils ont joué le jeu, et voilà.
Alors, comment va Rita 4 ans après?
Très bien. Alhamdoulilah, je suis heureuse dans ma vie. Bon, bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai connu, sur le plan personnel, beaucoup de douleurs, on va dire, et dont la perte de ma maman, l'Alhama, qui est arrivée sans prévenir. Elle est partie très vite, et très jeune et très vite. Et trop tôt et très vite, en fait, c'était pas du tout attendu. Mais je pense que lorsque justement on développe cette résilience-là, et qu'on part du principe que ben, paradoxalement aussi, la mort fait partie de la vie, on apprend à vivre avec et continuer à profiter des belles choses qui se présentent à nous, parce qu'il y en a, hein, continue à y en avoir, heureusement d'ailleurs. Et voilà, et on apprend à vivre avec toutes les douleurs qu'on a traversées et qu'on continuera de traverser. Hein. On ne sait pas ce que nous préserve l'avenir. Si on doit zoomer sur ma vie en tant que maman, en tant que jeune femme, alhamdoulilah, je suis bien.
Et à côté de tout ça, il y a bien sûr le boulot.
Oui,
Il y a le boulot
oui.
à l'extérieur. Ça
Exactement.
n'empêche ça n'empêche pas la personne de construire sa carrière, d'avancer, de se construire en tant que femme d'aujourd'hui.
Pas du tout. Et c'est pour ça que j'en reviens encore une fois à ce que je disais au début de l'interview, il faut choisir ses batailles. Si, voilà, les choses, on ne peut pas savoir à quel moment on va passer par des moments difficiles, mais à côté de ça, en même temps, on ne peut pas mettre entre parenthèses ce qu'on a construit tout le long d'une vie juste pour régler une problématique donnée qui se présente à l'instant T. Et donc, c'est justement pour ces raisons-là qu'il faut choisir ses batailles et choisir de mettre son énergie là où ça en vaut la peine. Et dans mon cas, c'est ma famille, donc ma petite famille qui est représentée par mes filles, bien sûr mes parents et mes sœurs, mais aussi mon boulot qui, pour moi, est très important et qui est également une source d'épanouissement. Donc, et voilà. Il faut apprendre à gérer et à composer avec tout ça.
Rita Fellel, merci infiniment pour cette belle discussion.
Merci à toi, Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.